Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Lecture en liberté, Denis Flageul.
Bonsoir. Je vous propose de démarrer cette nouvelle semaine de nos lectures en liberté par le début du roman de Jean-Claude Izot, Les marins perdus. Marseille, ce matin-là, avait des couleurs de mer du Nord. Diamantis avala vite fait un escafé dans la salle commune déserte, puis il descendit sur le pont en sifflotant « Bésame mucho », l'air qui lui venait le plus souvent à l'esprit. Le seul qu'il sut siffler aussi. Il sortit une camelle d'un paquet froissé, l'alluma et s'appuya au bastingage. Diamantis, ça ne le gênait pas ce temps. Pas ce jour-là en tout cas. Depuis le réveil, il avait le moral poissé dans la grisaille. Il laissa son regard errer sur la mer vers le large, pour tenter de repousser ce moment où, comme chacun des marins de l'Aldébaran, il lui faudrait prendre une décision. Décider, ce n'était pas son fort. Depuis 25 ans, il se laissait porter par la vie, d'un cargo à un autre, d'un port à un autre. Le ciel virait à l'orage et, au loin, les îles du Frioul n'étaient plus qu'une tache sombre. C'est à peine si on distinguait l'horizon. Une vraie journée sans avenir, pensa Diamantis, sans oser se dire que cette journée ressemblait aux précédentes. 5 mois qu'ils étaient là, les marins de l'Aldébaran, à quai, relégués au bout des 6 kilomètres de la digue du large, loin de tout, sans rien à faire et sans fric, à attendre un hypothétique repreneur de ce foutu cargo. L'Aldébaran était arrivé à Marseille le 22 janvier. De la Spresia, en Italie, pour charger 2000 tonnes de farine à destination de la Mauritanie. Tout allait bien. 3 heures après, le tribunal de commerce avait bloqué le navire en garantie des dettes contractées par leur armateur. Constantin Takis, un chypriote. Depuis, plus personne n'avait eu de nouvelles de lui. Un sacré fils de pute, avait simplement dit Abdul Aziz, le capitaine de l'Aldébaran. Puis, d'un geste dégoûté, il avait tendu la décision de justice à Diamantis, son second. Les premières semaines, ils avaient cru que l'affaire se dénouerait rapidement. L'espoir, ce n'est pas ce qui manque aux marins. C'est même ce qui les fait vivre. Tous ceux qui ont pris la mer au moins une fois dans leur vie le savent bien. Pour tromper les évidences, Abdul Aziz, Diamantis et les 7 hommes d'équipage firent chaque jour comme s'ils devaient partir le lendemain. Entretien des machines, nettoyage du pont, vérification des installations électriques, inspection du poste de pilotage. La vie à bord devait continuer, c'était l'essentiel. Et Abdul Aziz prouva à ses hommes qu'il était aussi bon capitaine en haute mer que dans les galères de la vie à terre. Autour de l'Aldébaran, et sans nul doute grâce à ses qualités, la solidarité s'organisa vite. Les restaurants du cœur fournirent nourriture et boissons. Les marins-pompiers les ravitaillèrent en eau douce. L'administration du port assura le nettoyage du linge et l'enlèvement des ordures. Et soulagement, dès le 3e mois, la mission des gens de mer envoya de l'argent aux familles en difficulté. On a eu de la chance d'être coincé ici, avait dit Abdul. Ailleurs, on aurait pu crever sur place. Tu vois, Diamantis, je l'aime bien, cette ville. Diamantis aussi, il aimait Marseille. Il l'aimait depuis la première fois où il y avait débarqué. Il avait à peine 20 ans. Mousse à bord du tramp steamer Ecuador, un vieux cargo rouillé qui ne s'aventurait jamais au large de Gibraltar. Diamantis se souvenait bien de ce jour-là. L'Équateur avait doublé l'archipel de Riou, puis passé les îles du Frioul. La rade s'était offerte à ses yeux. Comme un trait de lumière blanc-rose partageant le bleu du ciel du bleu de la mer. Un éblouissement. Marseille, avait-il alors pensé, est une femme qui s'offre à ceux qui arrivent par la mer. Il l'avait même noté dans son journal de bord, sans savoir s'il énonçait là le mythe fondateur de la ville. L'histoire de Gyptis, cette princesse ligure qui se donna à Protis, le marin phocéen, la nuit de son entrée dans le port. Depuis, Diamantis n'avait plus compté le nombre de ses escales. Mais aujourd'hui, tout était différent. Ils étaient à Marseille comme des marins perdus. Diamantis l'avait compris à la fin du premier mois, quand on leur avait demandé de quitter le môle D pour aller s'arrimer au poste 111, au bout du quai Wilson, sur la digue du large. La vie des ports fourmillait d'histoires semblables à la leur. Le partenaire, à Rouen, attendait depuis 3 ans. Personne ne savait plus à qui appartenait le navire. Vendu, revendu, recédé, sans jamais quitter sa place. Plus près d'eux, à Port-de-Bouc, l'Africa, un vraquier, était à quai depuis 18 mois. L'Alcyon et le Fort de Sey, un Roro et un Tramp à 7. On lui avait raconté ça à Diamantis, comme on l'avait raconté à Abdul Aziz. Tout cela, les deux hommes ne l'ignoraient pas au moment d'embarquer sur l'Aldébaran. De plus en plus de cargos connaissaient de telles mésaventures dans les ports. À l'exception des porte-conteneurs et des pétroliers qui appartenaient à des flottes internationales et non pas à des armateurs qui jouaient avec le fret comme on joue à la roulette. Mais de cela, Abdulaziz et Diamantis n'en parlaient jamais. Par superstition. L'Aldébaran reprendrait la mer. Avec Aziz aux commandes, voilà ce qui était vrai. À 55 ans, celui-ci ne pouvait envisager de quitter son navire. Il en avait pris le commandement à la Spezia et il le ramènerait à son propriétaire, quel qu'il soit, où que ce soit. Il l'avait redit avant-hier soir devant l'équipage réuni. Dans la salle commune, d'une voix où il avait su chasser toute émotion, il avait lu le communiqué de justice qui lui avait été remis dans l'après-midi. L'Aldébaran fait l'objet de saisies conservatoires pour des dettes d'une société dont les créanciers prétendent qu'elle serait liée à l'armateur, alors que la société dont dépend l'Aldébaran est totalement séparée en droit de la société débitrice. L'équipage l'écouta en silence, sans comprendre un traître mot de ce charabia juridique. L'avocat qui avait été commis d'office leur fit un commentaire mot à mot. C'était bien inutile. Chacun avait perçu l'essentiel. Même les deux birmans de l'équipage, ce n'était pas demain la veille que le navire reprendrait la mer. Seule la vente du cargo, et encore dans les meilleures conditions, pourra permettre de vous payer, avait repris Abdul, coupant l'avocat dans une belle envolée juridique. Voilà ce que ça veut dire. Cela peut se faire demain ou dans 6 mois. Ou dans 1 an, pourquoi pas. Je ne veux pas que vous entreteniez des illusions. À 7, précisa-t-il, un cargo comme le nôtre, le Fort de Sey, a été mis aux enchères la semaine dernière. Aucun repreneur ne s'est présenté. Voilà ce que vous devez savoir. Je connais vos problèmes familiaux. j'ai les mêmes. Alors je ne retiens personne. Je me suis renseigné, des indemnités faibles, il faut le dire, sont envisageables pour ceux qui souhaiteraient partir. Réfléchissez-y et faites-moi connaître votre décision demain matin. Moi, je reste. Ma place est ici, mais ça, vous le savez tous. » Il les regarda les uns après les autres, à l'exception de l'avocat qui l'avait d'entrée mis en situation de hors-jeu. Un moment, Diamantis crut qu'Abdul allait demander si quelqu'un souhaitait poser une question. Mais non, il n'en fit rien. Il ajouta simplement « Je suis désolé pour tout ça. Je n'aurais pas dû vous laisser espérer. J'y ai cru qu'on reprendrait la mer. J'y crois encore, mais... » Il se leva. Il semblait épuisé. « Bonsoir, mes amis. » Il quitta la salle. Le regard perdu au loin, les lèvres serrées, raides, fières comme le sont parfois les êtres désespérés. Diamantis le suivit des yeux. Il devina qu'Abdul Aziz allait se réfugier dans sa cabine. Les yeux fermés, allongé sur sa couchette, il se consolerait avec la musique de Duke Ellington. Il avait l'intégrale en cassette qu'il écoutait sur un baladeur, un cadeau de Céphée, sa femme, pour son anniversaire. Il n'était pas ressorti. Même pas pour manger. Cette histoire le rongeait. Abdul Aziz n'aimait pas les échecs. Diamantis jeta son mégot dans l'eau. La mer lui manquait. Il n'avait jamais pu se convaincre du bonheur de vivre à terre, fût-ce dans un port. Presque 30 ans de navigation et sa vie restait sur la mer, là. Et seulement là, il se sentait libre. Il ne s'y sentait ni vivant ni mort, mais ailleurs. Un ailleurs où il trouvait quelque raison d'être lui-même, c'était pour lui suffisant. Il n'avait rien bâti. Il n'avait plus de famille, pas de femme qui l'attendait. Il n'y avait que Mikis, son fils, 18 ans cette année. La moitié de ce qu'il gagnait était pour lui, pour payer ses études à Athènes. Mikis aimait la littérature et Diamantis parfois imaginait que son fils rapporterait dans ses romans populaires le récit de ses voyages. Mais en vérité, Diamantis n'avait qu'une seule peur. C'était que Mikis ne prît lui aussi la mer. Dans sa famille, on était marin, de père en fils.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Miedo tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. piensa que tal vez mañana ya estaré muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo tener y perderte después.
Lecture en liberté, Denis Flagel.
Les marins perdus, Jean-Claude Izot. J'ai couru toute ma vie après mon père, raconta un soir Diamantis à Abdoul, jusqu'à sa mort. Après, je savais plus rien faire d'autre que ça, être en mer. Je savais plus comment vivre sans elle. Ma seule tentative de jeter les amarres, de me fixer à terre, ça a été d'épouser Mélina, de nous installer à Agios Nikolaos, sur l'île de Psara, où mon père avait acheté une maison. Mais que veux-tu faire sur une île qui n'appartient qu'aux chèvres ? On a fait un enfant. Le soir, pour le bercer, je lui lisais Homère. 4 ans après, je reprenais la mer. Mélina est rentrée d'Athènes dans sa famille avec Mykis sous le bras. Quand je suis revenu 2 ans après, elle m'attendait pour le divorce. Je suis resté 1 semaine, puis je suis reparti. Et je ne me suis plus jamais arrêté. C'est la première fois depuis la naissance de Mykis que je reste aussi longtemps à terre. Et ça te fait quoi ? Je suis comme si je ne savais plus qui je suis. Et toi ? Avait demandé Diamantis. Aujourd'hui, je ne me sens comme toi. Je ne sais plus très bien. Ma vie, ses faits, les enfants, tout ça. Je ne sais plus trop bien si ma vie a un sens. Diamantis avait été surpris par cette réponse si franche et directe, si intime aussi de la part de cet homme. En fait, il avait seulement souhaité savoir comment Abdoul était devenu marin. La première fois pour un marin est aussi importante, sinon plus, que la première fille qu'on a eue dans son lit. La même peur, le même vertige, sauf que cet amour-là, on sait, dès le port quitté, qu'on ne s'en déprendra jamais. Enfin, c'est ce que pensait Diamantis. Les deux hommes avaient navigué plusieurs fois ensemble, sur d'autres cargos, pour d'autres armateurs, toujours dans ce même rapport. Azis, capitaine, Diamantis, son second. Ils s'en étaient toujours tenus à ça, à cette fonction qu'ils occupaient. Avec confiance, avec respect. Jamais ils ne s'étaient parlé de leur vie, de cette vie à terre, où sans nul doute, s'ils s'étaient rencontrés, ils n'auraient eu que peu de choses à se raconter, pas même lors de cette longue traversée il y a 6 ans jusqu'à Saïgon. On se déglingue, avait alors pensé Diamantis. Abdul avait souri devant l'étonnement de Diamantis. J'ai pas répondu à ta question, hein, c'est ça. Ouais, mais t'imagines, Abdul, depuis le temps. Qu'est-ce qui nous prend? On a un sacré coup de blues ou quoi? C'est d'être à terre si longtemps. Ça nous change. Il n'y a pas la mer entre nous et l'on découvre le vide et la peur de plonger. T'as peur? Peur de finir ici, ouais. De plus reprendre la mer, je veux dire, de plus avoir de navire. Abdul s'était perdu dans le silence. Ils avaient marché entre treuils et chaînes d'ancre, dépassant les manchons des écubiers jusqu'à l'extrême pointe de la proue. Abdul s'appuya au bastingage et regarda les étoiles, puis il désigna le ciel à Diamantis. Tu vois celle-là? C'est Céphée, ma femme, ma bonne étoile. T'as une étoile, toi? Je les ai toujours suivis, plaisanta Diamantis. Aucune ne m'a vraiment souri. Moi, je suis devenu marin par hasard, répondit Abdul. Dans ma famille, la tradition, c'est plutôt le commerce. Un jour, Walid, mon frère aîné, on est 2 garçons et 3 filles, a quitté Beyrouth pour ouvrir un comptoir à Dakar. Ça marchait bien. Mon père m'a envoyé l'aider. Je venais d'avoir 23 ans et je prenais la mer pour la première fois sur l'Espérance. C'était un paquebot qui, jusqu'à la guerre, avait fait la Nouvelle-Calédonie. L'Espérance, tu vois un peu? J'ai fait le voyage sur le pont ou presque, tant c'était dingue ce que je ressentais. Le coup de foudre, quoi. Arrivé à Dakar, t'imagines, je me suis emmerdé comme un rat mort. Dès que je pouvais, je filais au port pour regarder les navires. J'en ai vu passer. À force, je me suis fait pote avec un type de mon âge, Mahmoudi. Son père travaillait pour une compagnie américaine, l'European Pacific and Co. Il me l'a présenté. 10 jours après, j'embarquais pour Botany Bay, le port de Sydney, sur le Columbia Star. Ils avaient continué leur discussion tard dans la nuit à la terrasse de chez Roger et Nénette, un minuscule restaurant près du vieux port. On y servait de délicieuses pizzas, mais surtout des lasagnettes, avec une sauce tomate à la brousse, accompagnée d'alouettes cuites dans cette sauce, un délice. Ils étaient partis à vélo jusqu'au bassin de Radoub. Là, ils avaient pris le bus pour le centre. Les vélos, c'était un don du syndicat des dockers. 5 vélos. Aujourd'hui, il n'en restait plus qu'un. Les autres, on les leur avait fauchés à l'arrêt du bus. Mahmoudi, continua Abdul, quand je l'ai connu, sa femme venait d'accoucher d'une fille. On a fait la fête ensemble. C'était son premier enfant. Ben, tu vas pas me croire, Diamantis, cette gamine, c'est Céphée. Diamantis ne disait rien. Il écoutait. Le vin aidant, un rosé de Bandol, domaine de Caglou, avait précisé le patron en montrant la carte. Il avait surmonté ce malaise de pénétrer dans l'intimité d'Abdul. Il le devinait, leurs rapports ne seraient plus jamais les mêmes. Se confier, et Diamantis aussi était prêt à le faire, c'était s'avouer qu'ils étaient bel et bien des marins perdus. Un matin, 18 ans après, je fais escale à Dakar. Je naviguais sur l'Éridan, le premier bateau qu'on me confiait. Je débarque chez Mamoudi. On avait gardé le contact. Régulièrement, je lui donnais de mes nouvelles. Une petite carte, quoi. D'ici, de là. C'est loin que je lui devais. Et qui c'est qui m'ouvre la porte ? La gamine. Putain, Diamantis, cloué sur place, j'étais. Cette gosse que j'avais tenue dans mes bras, une déesse, elle était devenue d'une beauté. Des femmes, j'en ai vu, j'en ai connu, comme toi sans doute, mais elle. Diamantis se surprit à penser pour une fois à Mélina. Il l'avait aimée, bien sûr, mais par raison ou par dépit, ce qui revient au même. Son père venait de mourir et il s'était dit, ou avait tenté de se convaincre, que sa quête du monde était finie, qu'il pouvait s'arrêter. Celui qui lui avait tant manqué dans son enfance, après qu'il n'eut de cesse de courir de port en port avec l'espoir d'être avec lui une nuit, une journée, une semaine, cet homme-là était revenu mourir dans ses bras, à Psara. Mélina était venue à l'enterrement avec ses parents, de vieux amis des siens. Mélina, il la connaissait depuis l'enfance. Ils avaient fait l'amour ce soir-là, le soir de l'enterrement. Non, Diamantis, il se dit dans sa tête, tu déconnes. Mélina, elle était belle, elle était pour toi, tu l'as vraiment aimée. À quoi tu penses, Diamantis ? Demanda Abdul. À Mélina. Elle était belle, elle aussi. Abdul éclata de rire sûr. Les femmes qu'on aime, elles sont forcément belles. Sinon, on ne coucherait pas avec. C'est fait, je vais te dire, il y en a des milliers de plus belles, je le sais, j'en ai croisé dans tous les ports du monde. Mais elle. Ce qu'il y avait dans ses yeux, c'était rien que pour moi. C'est ça l'amour. Et ça, je l'ai compris quand elle a ouvert la porte ce jour-là. Peut-être qu'elle se souvenait de comment je la tenais dans mes bras quand elle est née, de mes mains sur son petit cul. Abdul était un peu ivre. Diamantis perdu dans ses pensées. Les souvenirs affleuraient sa mémoire comme à la surface d'une eau qui aurait trop longtemps croupi. Cela ne sentait pas forcément bon. Il aurait voulu chasser tout ça de sa tête. Il savait que derrière Mélina se profilait le visage d'une autre femme. D'une gamine de 18 ans, qu'il avait follement aimée et qu'il avait quittée sans un adieu. Il l'avait abandonnée. C'était il y a 20 ans à Marseille. Jamais il n'avait essayé de la revoir lors de ses escales ou essayé de savoir ce qu'elle était devenue, pas même depuis qu'il était coincé là. Elle lui manqua cruellement à cet instant. Amina. Son visage s'imposa. Il était trop tard maintenant pour en repousser l'idée. Il sut alors à quoi il allait consacrer son temps, à la retrouver. Comme pour mettre enfin sa vie à l'heure. « On s'en reprend une ?» demanda Abdul en désignant la bouteille vide. Diamantis ne se fit pas prier, le vin s'est fait pour se souvenir, pas pour oublier. Abdul suivait des yeux Diamantis du sabord de sa cabine. « Où peut-il aller si tôt ?» se demanda-t-il. Il n'avait pas emprunté le dernier vélo qui restait à l'équipage et cela l'intriguait. C'était la première fois depuis qu'ils étaient coincés à Marseille qu'Abdul se posait des questions à propos de la vie à terre de Diamantis. Souvent, il partait le matin, mais avec le vélo, et il revenait 2 ou 3 heures après. Il lui arrivait aussi de s'absenter une journée. Dans ce cas-là, il s'en allait à pied, comme aujourd'hui, mais il le faisait toujours avec son accord et sans jamais se dérober aux tâches que chacun avait à accomplir sur le navire. Diamantis, il devait le reconnaître, ne rechignait jamais devant le boulot, au contraire. Un après-midi, il s'était même joint à l'équipage pour s'attaquer à la rouille qui gagnait le navire. À la fin de la journée, Abdul lui avait fait remarquer un peu sèchement que ce n'était pas là sa place. la place d'un second. Diamantis lui avait répondu que la rouille non plus n'était pas à sa place sur le cargo. Abdul avait souri. Je sais. La rouille, c'était juste pour que les hommes s'occupent, que personne se prenne la tête à glander à bord. Ça commence à tirer entre eux, surtout entre les deux Birmans et le reste de l'équipage. Aldébaran, je ne sais pas si tu sais, quand je l'ai pris, il sortait de 24 mois de rancard. Alors la rouille, on aura beau la racler, ça n'y changera plus rien. Ben, je suis comme eux, Abdul, j'ai envie de cogner aussi, autant que ce soit contre de la ferraille, et je vais te dire, je me sens mieux, les hommes aussi. On s'en est pris plein la tête et plein les bras, mais au moins, ça ressemble à une vie de marin. C'est ce soir-là qu'il s'était mis à parler. Voilà donc pour ce soir le début de ce roman de Jean-Claude Izzo, Les Marins Perdus, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guillon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.